En quête de sens, vous est présenté par la Mutuelle Saint-Martin. Mutuelle santé efficace et fraternelle. En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
Le sport est dépassement de soi, le sport est école de vie, c'est ce qu'affirmait l'ex-entraîneur des Bleus, le légendaire Aimé Jacquet. Alors au-delà de la quête voire la conquête de la performance, le sport offre des milliers d'effets vertueux sur le corps, le cœur et l'esprit. Ce n'est plus à prouver. Certains parlent du mental qui s'aguerrit, d'autres soulignent la générosité, la persévérance que sa pratique exige bien souvent. Et puis, sans forcément pratiquer un sport de combat, peut-être le sport peut-il nous rendre plus forts. Plus humble aussi, en tout cas. Et si le sport nous rendait tout simplement plus combatifs, eh bien, tentative de réponse, je l'espère, en tout cas au bout de ces 52 minutes, dans cette émission Quête de sens sur Radio Notre-Dame et sur RCF, avec mes trois invités qui sont, pour commencer, honneur aux dames, si vous le permettez, Valérie de Swetchin. Bonjour Valérie.
Bonjour Marie.
Vous êtes toujours formatrice à l'Université Paris 2 Panthéon Assas. Vous avez publié des ouvrages autour de l'éducation, l'enfance. Mais c'est pas complètement étranger à notre sujet, c'est pour ça que je me permets de le préciser. Puisque le sport à l'école, c'est peut-être une bonne option. Là-haut, le gouvernement, pas là-haut, mais peut-être des bonnes idées à développer, n'est-ce pas?
Sans doute.
Après ces JO. Vous avez en tout cas coécrit cet ouvrage « Championne ». Avec Régis Dupont, ici présent, chez Erol. Régis Dupont, bonjour.
Bonjour Marie-Ange.
Ravie de vous recevoir. Vous êtes grand reporter à la rubrique foot du quotidien L'Équipe, depuis des années et des années.
Depuis très longtemps, depuis 1998.
Ça existe, ça? Vous êtes un dinosaure, on peut le dire?
Je suis devenu un dinosaure assez vite. Je ne suis pas le plus vieux des dinosaures, mais...
Vous n'êtes pas vieux pourtant, hein. Bon, en tout cas, passionné de sport, évidemment, depuis toujours, on l'imagine. Vous êtes également l'auteur d'une biographie sur Ronaldo, qui est sortie il y a quelques années.
Il y a 3 ans, si je me souviens bien.
Bravo, et vous revenez donc pour récidiver avec cet hommage aux championnes, donc des femmes, des championnes.
Ah bien sûr,
voilà.
On n'en parle pas, bah parce qu'on n'en parle pas souvent et parce que Valérie m'a poussé à écrire ce livre et j'ai assez vite compris qu'effectivement c'était dans l'air du temps.
D'accord. Puisque vous vous connaissez, évidemment, on peut aussi le préciser. François Morinière, The Last But Not The Least. Bonjour François.
Bonjour Marie-Ange, bonjour aux auditeurs, aux auditrices.
Alors vous êtes là en tant que sportif, en tant qu'ancien directeur du journal L'Équipe. Combien de temps vous avez dirigé ce journal au fond?
Pendant plus de 6 ans.
Plus de 6 ans, ça vous a marqué?
Ah oh bah oui, c'est tranche de vie importante, ouais. Bien sûr.
Avec Régis, que vous
voilà,
avez évidemment
côtoyé. Voilà, on est heureux
de
retrouver Régis, qui est un grand journaliste, et voilà, c'est par ces journées-là que L'Équipe tient son rang et toujours là.
Alors, le sport et la France est un sujet, on l'a déjà évoqué, vous avez raté un épisode, donc je vous propose aujourd'hui de nous intéresser à l'aspect combatif, puisqu'on dit souvent que le sport rend plus confiant aux États-Unis. Dieu sait que c'est même plus à prouver, puisque c'est aussi important que les matières principales. Ça, je l'ai appris, effectivement, en interviewant des personnes qui enseignent là-bas, qui sont coach là-bas, etc. On a même des champions qui viennent s'entraîner là-bas, pas par hasard. Mais cette question, effectivement, est-ce que le sport nous rend plus combatifs? Pas la peine de faire du karaté. Est-ce que vous êtes d'accord tous les trois? Valérie, pour commencer, vous êtes la dame, vous parlez en premier.
Bien sûr. Oui, bien sûr. Ça, que le sport améliore les compétences, effectivement, même entre guillemets purement scolaires. Ça, il y a plein de publications là-dessus et c'est plus à démontrer. Que ce soit pas assez valorisé en France. Malheureusement, voilà, c'est le cas. Et évidemment, oui, que ça rend plus combatif. Le sport, c'est une allégorie de la vie. Enfin, je veux dire, c'est un petit...
Il a raison, le Aimé Jacquet, alors.
Il a raison, Aimé, oui. Oui, c'est... On dépasse nos limites, on se fixe des objectifs, on fait tout pour les atteindre, moralement, physiquement, oui, bien sûr, ça rend plus combatif. Le sport, ce n'est pas de la rhétorique. Hein. Je veux dire, il faut y aller. On le voit avec les athlètes de haut niveau, les JO qui se préparent. Nos deux camarades, là, ce soir, aujourd'hui, sont plus aptes que moi là-dessus. Mais bien sûr, le sport rend effectivement combatif et amène des valeurs, d'ailleurs. Je veux dire, quand on fait partie d'une équipe ou qu'on pratique un sport individuel, quand on s'engage, on y va. Fatigué, pas le moral, mal, on y va. Ouais. Donc oui, ça rend plus combatif.
Alors, c'est pas combatif en mode j'écrase l'autre.
Non.
C'est
non.
Très, très, très nuance. Enfin, c'est voilà. Très... en fait, il faut s'étayer, faut étayer un petit peu la définition de la combativité par le sport. François Morinière, il y a aussi... Alors, vous savez, j'étais chercher, c'est amusant, parce que chez les Grecs, figurez-vous que Pythagore... Alors, là, je dis, ça y est, nous sort Pythagore. dans la définition du bien-vivre, il analyse la figure... Il analyse les Jeux Olympiques, et il dit, par exemple, ce qui est extraordinaire dans un événement sportif, là, on pense évidemment au JO, par exemple, c'est qu'il y a les personnes, les spectateurs... sont dans une posture d'admiration, ils sont émerveillés, donc il y a quelque chose de généreux et de beau, quelque chose de beau. Et le sportif, lui, veut aussi, il veut briller. Alors on peut croire que c'est de l'orgueil, de l'ego, etc. Mais non, puisqu'il veut aussi, il veut atteindre un but, il veut atteindre une performance, parfois par tous les moyens, mais au moins, il veut se dépasser. Et du coup, tout le monde s'élève, en fait, à la fois côté acteur, côté sportif et côté spectateur. C'est quelque chose qui vous émeut tous les deux en tant que journaliste et puis ancien directeur de l'équipe.
Il y a un côté miroir de la performance du sportif. C'est vrai pour les professionnels, c'est vrai aussi pour les amateurs. Et donc, le spectateur, le public... en tire des leçons, des enseignements personnels. C'est vrai que on ça redonne une énergie quand on a la chance d'assister à ce genre d'exploit, y compris pour soi-même. Donc oui, bien sûr qu'il y a un rebond sur le public.
Ce
qui est extraordinaire, ce qui rend le sportif combatif pour moi, c'est que quand on fait du sport, on est tous à égalité. On arrive, si on court, on a nos chaussures, notre short. Si on fait de l'escrime, on a la même arme que l'adversaire. On est complètement à égalité. C'est évidemment le seul domaine où on est complètement à égalité face à l'autre, face à la performance. Et moi, il y avait une phrase qui m'avait marqué il y a quelques années. C'était Stéphane Diagana qui commentait le marathon de Paris et qui disait qu'il avait énormément d'admiration pour ceux qui justement faisaient le marathon en 5 heures. Parce qu'effectivement, pour lui, c'était beaucoup plus dur de faire le marathon en 5 heures que pour ceux qui ont la chance de pouvoir le faire en 3 heures. Et ça, c'est important, et ça, il faut le rappeler aux gens. C'est un peu comme Jean-Claude Suodo, l'ancien entraîneur de Nantes, qui disait qu'il fallait valoriser celui qui faisait l'appel et qui ne recevait jamais le ballon. Parce que c'est aussi ça, les valeurs du sport. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours tendance à s'arrêter à la performance.
Ouais,
mais en fait, déjà faire un marathon, c'est une performance. C'est comme monter un col, même si on le finit à pied. Eh ben, c'est pas grave, on a quand même monté un col de 10 km à 12%. Chacun à son niveau, on fait tous du sport. Et c'est en ça que ça rend très combatif le sport, et humble évidemment.
Ouais.
Mais on peut pas être combatif sans être un minimum humble, à mon sens.
C'est ça qui est intéressant, François.
Alors, il est combatif, parce que vous parlez de Pythagore. Donc il faut se rappeler... Non mais c'est intéressant, il faut se rappeler de pourquoi les Jeux Olympiques et pourquoi la...
Ouais.
Parce que c'est la première fois qu'on essaye... Enfin, c'est une tentative réussie de canaliser la violence des hommes. Donc le fait de savoir qui va être le plus fort, à la régulière, comme dit Régis, avant, le plus fort assomme l'autre, le tue, le trucide, donc c'est ce qui se passe dans l'Antiquité, et donc tout le monde trucide tout le monde. Et là, tout d'un coup, pendant la trêve olympique, pendant les Jeux olympiques, il y a des règles qui sont établies, et donc, à la loyale, entre guillemets, on va mesurer qui est le plus fort, et de manière pacifique. Donc, la notion de combat, elle est intrinsèque de la confrontation sportive. Alors, pas au sens aussi noble que l'évoquent nos deux amis, mais elle est déjà là. C'est-à-dire, c'est le combat contre l'autre dans le respect d'un cadre. Et ça, c'est nouveau. Et ça rebondit sur ce que dit Régis, sur justement le côté confrontation, mais dans un cadre réglé. Et en évitant de transgresser les règles. C'est pour ça qu'après, il y a eu toutes les transgressions possibles, de pages, etc., pour essayer malgré tout de gagner à tout prix.
Sachant que je n'ai pas précisé, François Morinière, en début d'émission, que vous avez créé Holy Games.
Oui, c'est,
hein, c'est ça.
Oui, pour les JO. Oui.
C'est
l'initiative de l'Église de Paris.
Il y a combien d'années?
Il y a 3 ans.
On
avait réfléchi à ce qu'on pourrait faire pour les JO. Alors, on n'est pas dans le combat, là, on est la fraternité.
Non, mais c'est des valeurs. Non, mais il y a la compatibilité.
Ah, bien sûr, bien sûr.
C'est noble, la compatibilité.
Ah, ben, la preuve.
C'est qu'on y est.
L'objet de l'émission.
Au cas où j'aurais oublié. Valérie, justement, dans toutes les championnes là, dont vous parlez, l'un et l'autre dans ce livre, il y en a 50, hein, je ne l'ai même pas précisé. Ce serait qui la plus combative? Alors, c'est pas forcément la boxeuse, hein.
Oui, je comprends. La plus combative, en fait.
Pour vous, hein, chacun.
Est... Alors, moi, j'aime bien... Ce qui les caractérise toutes, j'aime bien penser que c'est... Bon, c'est toutes des championnes, ok. Elles ont toutes plein de médailles. Des... Bon, ça, c'est incontestable. Certaines étaient complètement inconnues, mais... Mais au niveau sportif, elles sont reconnues, il n'y a pas de problème. En revanche, ce qui les distingue, à mon avis, toutes, c'est un super supplément d'âme. C'est-à-dire que ce n'était pas écrit, pour le coup. Ce destin-là, la plupart ont dû braver une enfance vraiment pas...
Traumatisante, parfois.
Traumatisante, voilà, vraiment pas favorable. Et en fait, je pense, là, Régis, j'espère, sera d'accord avec moi, ce qui distingue quand même les grands champions, c'est leur faim. Ils ont faim, il n'y a pas de plan B. C'est, je veux dire, il n'y a pas d'autre solution. C'est quand même le sport un magnifique ascenseur social. Ça leur a permis, pour la plupart, de sortir de conditions, voilà, d'une enfance défavorable. Voilà. Alors, la plus combative, la plus...
Très compliquée.
C'est pas facile. Hein. Elles le sont toutes, en fait.
Ouais, c'est ouais, elles le sont toutes, parce que...
Votre elle... préférée, alors, allez.
Ah, moi, ma préférée, c'est Simone Mathieu. Ça, là-dessus, il n'y a pas de... C'est une immense championne de tennis au début, dans les années 20.
Qui a voulu se confronter à des gars. C'est ça? C'est elle ou pas?
Non, c'est pas elle.
Ah non, c'est pas elle, pardon, je me suis trompée.
C'est pas grave. Mais non, en fait, elle, c'est une très grande résistante. Donc en fait, elle était en passe de devenir numéro un mondial. Elle est partie aux États-Unis faire un tournoi. Et puis elle a entendu l'appel de Gaulle. Et elle est partie. Et elle a été une très très grande résistante. Donc il y a un des cours de Roland Garros qui porte Absolument. Son nom. C'est une très très grande championne. Alors elle, pour le coup, pas d'ascenseur social. Enfin, je veux dire, en l'occurrence, c'était une bourgeoise, voilà, qui avait voilà pas besoin de ça. Elle avait des problèmes de santé. C'est son médecin qui lui a dit, faites un peu de sport, ça va vous faire du bien. Donc elle s'est mise au tennis comme ça. Puis elle était très très forte. Mais voilà, elle c'est ma préférée parce que c'était ouais. Une résistante. Mais au niveau, je pense quand même
du Régis, tempérament.
Ouais.
Il y a la fameuse Strada, l'italienne qui a voulu faire le tour, tour d'Italie cycliste avec les hommes. C'est
elle, pour
une
le
histoire
coup,
incroyable.
Elle se mesure aux hommes dans
Non, mais surtout qu'à l'époque, le tour d'Italie, c'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est des étapes interminables qui font plus de 200 km. Enfin, c'est déjà faire une étape, c'est déjà un exploit. Alors elle, une femme, enfin c'est incroyable, c'est vraiment une idée folle, complètement folle. Et d'ailleurs, elle est allée au bout, dans un état évidemment que je vous laisse imaginer à la fin du Tour d'Italie, mais c'est quand même ça, c'est des histoires incroyables. Et donc elle, c'est vraiment une combattante. Et puis, mais il y en a beaucoup, il y a Oksana Masters, rescapée de Tchernobyl, il y en a tellement qui...
Il y a les femmes handicapées. Quand même.
Et qui commencent pas handicapées et qui finissent continuent en handisport.
Voilà.
Hallucinant.
Ouais, ça, celle-là,
c'est un tour de force quand même. Hein.
Celle-là,
désolée,
ces femmes-là, oui, elles forcent le respect. Il y a en ce moment-là, je pense souvent à Solène Piret, qui fait de l'alpinisme, qui a une agénésie du bras droit, donc elle n'a pas d'avant-bras droit. Ouais. Elle fait de l'escalade. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Parce que en plus, en outdoor, souvent. Donc, escalader à Fontainebleau avec un membre en moins. Donc, ces femmes-là, effectivement... D'ailleurs, Solène Piret, elle dit que c'est grâce, entre guillemets, grâce au sport qu'elle a accepté son handicap. Qu'elle a accepté cet avant-bras invisible. Qu'elle en a fait une force. Donc oui, en termes de combativité, elle... Elle se présente.
Ouais, il y a plusieurs types de combativité aussi. Il y a ceux et celles qui dépassent leur faille, fait, qui en font une force.
Exactement.
Il faut quand même le faire. Hein. On a presque envie de dire que ce sont des saints.
Mais non, bon. Mais je vais un peu loin.
Un peu loin, Marie.
Mais c'est ça qui vous fascine depuis toujours à l'équipe. Vous n'avez quand même pas bougé. J'imagine qu'il y a quelque chose qui vous fascine chez ces personnes, chez ces sportifs, même si vous occupez beaucoup de foot, mais quand même.
Ce qui est fascinant, c'est de se rendre compte à quel point, un peu comme les grands artistes, tous les grands sportifs, évidemment, ont une faille. Et quand je parle d'une faille, c'en est vraiment une en général. Alors, il n'est pas dans ce livre, mais il est effectivement dans mon livre précédent. J'ai fait énormément d'articles sur Cristiano Ronaldo, des centaines et des centaines pour l'équipe. Et là, pour le coup, c'est la caricature de ces personnages qui ont des failles, enfants non désirés, qui n'auraient jamais dû naître, père alcoolique, qui le perd très jeune, famille très pauvre. Et donc, lui, c'est le petit dernier qui chouchoutait, qui se sent obligé de réussir pour sauver sa famille, et qui, derrière, non seulement sauve sa famille en étant un grand joueur de foot, mais se dit, bah, non, je ne veux pas être un joueur de foot, je veux être le meilleur du monde. Et ça, il me l'a dit, il n'avait même pas 18 ans, il m'a dit, oui, moi, je serai le meilleur joueur du monde. Donc, c'est un truc quand même, c'est un truc ancré en eux, quoi. Faut vraiment... Et aujourd'hui, il va bientôt avoir 40 ans, il aura 40 ans dans 9 mois, et il veut toujours être le meilleur du monde, il veut toujours gagner, quitte presque à être un poids peut-être pour son équipe aujourd'hui, mais voilà,
il jouera en Allemagne, là.
Voilà, ouais, donc il va faire son sixième euro, consécutif.
Bon, ils y gagnent forcément, non, un peu l'équipe. Bon, c'est pas forcément un poids. Vous croyez que c'est un poids
Je crois qu'aujourd'hui, on en parle, c'est très technique pour le coup, mais honnêtement, aujourd'hui, le Portugal serait certainement une autre équipe sans Cristiano Ronaldo. Ça veut pas dire qu'il gagnerait, parce que pour gagner, souvent, on a besoin de ces joueurs justement très particuliers qui sont capables dans les instants décisifs de marquer. Bon, là, c'est les 40 ans de la victoire de l'équipe de France à l'Euro 84, et j'ai rencontré d'anciens joueurs portugais qui parlaient de la fameuse demi-finale perdue par le Portugal contre la France en 84, et me disait, mais cette fameuse passe en retrait de Tigana, si elle arrive sur n'importe qui d'autre que Platini, il n'y a jamais but. Mais Platini, on est à la 120e minute, malgré tout, il garde tout son calme, hop, il fait le contrôle, il fait le bon contrôle, il fait le bon geste, il a la patience de faire le bon geste. Et ça, des joueurs qui ont cette capacité-là, des sportifs qui ont cette capacité-là, bah effectivement, il y en a très très peu.
Oui, François, allez-y.
Non, c'est intéressant ce que disait Régis sur... quand il parlait de Ronaldo, parce qu'il parlait au départ de la fragilité des champions, parce que peut-être que les gens qui nous écoutent se disent, oui, mais de toute façon, vous parlez de...
C'est pas pour moi, quoi.
Voilà, vous parlez de gens exceptionnels, mais ils ont aussi leur failles. Faut pas croire que tout est simple pour eux. Je citerai une fois, je me souviens, président Sarkozy était venu à une conférence de rédaction en 2012, et il avait dit, les sportifs, c'est du pur cristal, et c'est vrai. Les très grands champions, c'est des mécaniques réglées de façon très précise, et le cristal peut se briser, peut avoir ses points de fragilité, et ça fait partie du champion. On parlait de ça à l'époque, on évoquait Marion Bartoli, qui est une femme qui a une histoire très compliquée, qui a été malade, enfin, sa vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc peut-être que pour beaucoup de gens qui nous écoutent et qui ont aussi ces questions de leur vie, pourtant le champion et le sport... leur donne une raison d'être, de se dépasser malgré ça. Et
justement, j'allais y venir. Voilà, ça tombe bien. Vous êtes parfait pour ça, Morinière.
Merci, je fais la transition. C'est un métier.
Oh là là, oui. Eh bien, écoutez, juste après Vivaldi, en revanche, si ça ne vous ennuie pas. Corrente, cet extrait de la sonnette opus 2, numéro 3 pour violon et basse, continue. À tout de suite.
En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
Trio musicale qui interprétait donc cette petite sonate, cette sonate tout court de Vivaldi. Et si le sport nous rendait plus combatifs? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui avec nos trois invités, Régis Dupont et Valérie de Swetchin, pardon, mais pfiou, je vous mets d'un seul bloc, auteur de cet ouvrage Championne qui vient de sortir chez Roll, hommage aux 50 championnes que vous avez sélectionnées l'un et l'autre. Régis Dupont, qui est journaliste à l'équipe depuis très longtemps, depuis 98, et Valérie de Swetchin, qui est... vous êtes coach, formatrice, plutôt. Qu'est-ce qu'on, comment vous présente, Valérie, en fait?
Je suis éditrice et maquettiste indépendante et je suis aussi formatrice à l'université.
Ouais. Passionnée d'éducation, en tout cas.
Passionnée d'éducation et de d'histoire.
Et d'histoire. François Morignard est enfin avec nous, qui a fondé Holy Games, pour ceux qui connaissent, mais j'espère, parce que sur Radio Notre-Dame, nous diffusons régulièrement la chronique.
Bien sûr. Hein,
jusqu'au JO, président des entretiens de Valpré, et surtout ancien directeur du journal L'Équipe, puisque c'est pour ça que vous êtes là aussi aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on va parler de nous, vous avez tout à fait raison François Morignard, nous y venons, à nous. Nous, les sportifs du dimanche, les personnes qui ont pression de regarder le sport à la télé, mais qui n'ont pas forcément très envie, ou les capacités, puisqu'il y a des personnes... Eh bien, qui ne peuvent pas forcément malheureusement pratiquer de sport. Est-ce que les Français sont moins combatifs que d'autres nationalités? Est-ce que vous avez une idée là-dessus, Régis? Est-ce qu'il y a un côté un petit peu culturel? Parce qu'on parlait des États-Unis, parce que je sais que justement, des champions et des championnes vont s'entraîner là-bas. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir là-dedans? Ou pas trop?
Non, j'y crois pas. Que les Français soient moins combatifs, non. Que les Français, que la France en général, ait moins intégré le sport dans l'aspect éducatif, combatif éventuellement. Oui,
d'accord.
Ça c'est clair.
C'est autre chose.
Mais c'est vrai que si par exemple les athlètes vont souvent aux États-Unis, c'est parce que là-bas il y a des structures privées, semi-privées, proches de l'université, beaucoup plus développées qu'en France. En France, ça existe très peu. Il y a l'académie par exemple de Monsieur Mouratoglou en tennis dans le sud, mais c'est assez rare cette intégration. Du sport à l'université en France, enfin à l'école encore, c'est encore pire, mais à l'université aussi, c'est ce qui fait la vraie différence avec les États-Unis. Et je pense, je m'occupe beaucoup de football et j'en parle souvent avec mes enfants qui sont un peu aussi là-dedans. Et je pense que ce lien qui n'a pas été fait entre l'université et le sport de haut niveau, c'est un vrai, vrai manque dans le sport et qui va se voir de plus en plus dans les années qui viennent.
Qui est dénoncé par les athlètes.
Et parce qu'en plus, aujourd'hui, le sport, on est dans ce qu'on appelle le gain marginal. C'est-à-dire c'est 1% de gagné, c'est colossal. Et l'apport universitaire là-dedans serait hyper important. Et aujourd'hui, on voit bien qu'en France, par exemple, au niveau des staffs techniques, on est encore très, très, très en retard par rapport à d'autres pays. Je parle là dans les sports professionnels, parce que finalement, paradoxalement, dans un sport comme l'athlétisme en France, grâce à l'INSEP, grâce à des institutions vraiment, vraiment fortes, on a vraiment une grande qualité. Mais c'est vrai que ce lien entre l'université et le sport de haut niveau fait de façon mécanique aux États-Unis, ça manque certainement au sport français. Il n'y a pas que ça qui manque au sport français. Il y a évidemment ce qui a fait qu'on a longtemps été très très en retard avec l'Allemagne, c'est-à-dire cette organisation du temps scolaire qui fait que là-bas, il y a fatalement du temps pour l'art, pour les loisirs en général, pour ce qu'on pense être des loisirs pour nous Français, mais qui finalement est bien plus que
le
des loisirs.
Le pays de Descartes, bien évidemment. Oui. François Morignard, est-ce que pour vous, le français, attention, question, les combatifs de nature, est-ce que c'est une vertu française ou pas? Très sincèrement, la combativité.
Alors, je ne suis pas sociologue, donc je...
Avec toute votre expérience.
Oui, mais elle m'implique du coup une grande modestie. Peut-être que le français est plus amoureux de jouir de la vie, parce que c'est un pays où on a tellement de choses à vivre, le pays du bien-être, donc peut-être que on est moins que d'autres pour des raisons de climat, pour des raisons de diversité géographique, peut-être qu'on est moins qu'un que d'autres, peut-être à ce quand vous habitez dans des pays avec des climats rudes, il faut tenir bon, être solidaire, être combatif pour résister. Peut-être que nous on n'a pas ça, mais je serais très prudent dans l'analyse. Je suis d'accord avec Régis sur le sport de haut niveau, en général, les Français sont largement aussi combatifs que les autres. Peut-être que dans les jeunes Français, il n'y a pas tout à fait la même. Ou peut-être qu'on l'a moins développé ces derniers temps. C'est-à-dire, l'histoire, c'est très long. Donc peut-être que dans les 30 ou 40 dernières années, peut-être qu'on a moins incité la SUC, d'autres pays qui ont été confrontés à des difficultés plus fortes que
ouais,
nous.
Ça, c'est intéressant, François, parce que justement, dans le livre, moi, j'ai découvert le nombre de championnes. Alors, que désolé, il n'y a que des femmes. Hein, on parle que des femmes.
Ne soyez pas désolés, c'était notre parti pris.
Mais certainement que des hommes aussi, et vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, Régis Dupont, à savoir que les très souvent, quand on est dans une situation, un contexte culturel, financier, social, etc., très difficile, voire tragique, très difficile, il en ressort des personnes, oui. Des sportifs sur ressort, j'ai envie de dire.
Mais parce que, en fait, bon, faut distinguer évidemment le sport de haut niveau, qui est exceptionnel et qui est quand même rare, hein, avec effectivement les sportifs du dimanche que nous sommes tous évidemment autour de cette table.
On va en parler, vous inquiétez pas. Ça dure longtemps l'émission, très longtemps.
Mais néanmoins, moi je pense notamment à Serena Williams. Bon, j'en parle là, c'est pour la transition avec les États-Unis et voilà. Serena Williams, son père, ouais. C'est quand même extraordinaire ce cas-là. Hein. C'était un projet, d'accord ? C'est-à-dire qu'elles sont nées pour
être championne.
Pour être championne. Alors là, pour le coup, il n'y avait pas de plan B. Leur père, en fait, on le raconte dans le livre, il aimait beaucoup le sport, mais il a vu un tournoi avec des jeunes filles qui ont gagné en une semaine ce que lui mettait 6 mois à gagner. Il a dit, OK, très bien, ben moi je vais sortir de ma condition, je vais faire des filles, je vais les entraîner, les préparer, en faire des championnes, elles seront championnes. Alors je ne sais pas s'il a eu de la chance parce qu'elles le sont devenues, ou si c'est tellement acharné pour qu'elle le devienne. Bon, en tout cas, son opération a fonctionné. Mais c'est ça, oui, c'est cette combativité, ce programme-là, soit pour sortir de sa condition, soit pour, officiellement, il s'en est jamais caché, gagner de l'argent. Voilà, même si Ronaldo aussi, enfin voilà, tous les grands champions gagnent de l'argent, quoique.
Pas tous, hein, peut-être. Ou alors ponctuellement.
Enfin, de façon complètement, entre un footballeur pro et un nageur pro, il y a un delta un peu dingue. Mais voilà, oui, la combativité, c'est vrai que ce qui est, je pense, culturellement, aux États-Unis, c'est avoué. C'est-à-dire, on joue pour gagner et on gagne pour avoir de l'argent. En France, c'est un peu la noblesse du sport, c'est un peu, bon, pardon, mais les athlètes, faut quand même, vu le sacrifice qu'ils font, c'est quand même aussi pour gagner des médailles, pour aller à des compétitions extraordinaires, ils rêvent tous des JO et on peut les comprendre, évidemment, mais ils espèrent aussi les gains que vont leur apporter les médailles.
C'est moins bien vu, quoi, c'est ça que vous voulez dire.
Oui, c'est un peu, en France, on a un petit problème avec l'argent, quand même, donc voilà, c'est un peu tabou. Donc voilà, mais ça n'enlève pas leur talent, leurs compétences et puis les sacrifices qu'ils font. C'est
l'esprit de compétition est-il évangélique ou pas? Oula. Finalement,
non, Olivier, Saint Jean court plus vite que Saint Pierre quand même. En arrivant au tombeau, donc il est quand même le premier. Donc il le sème dans les rues de Jérusalem pour arriver à côté de Golgotha où il y avait le tombeau, et là il passe la tête.
Il a passé le sprint.
Voilà, et puis il s'est mis en arrière le temps que Saint-Pierre arrive. Donc voilà. Hein, donc il y avait bien une envie d'être le premier pour Saint-Jean de savoir ce qui allait se passer. Quoi. Et Saint-Paul passe de la course de l'évangile. Donc Saint-Paul, il fait beaucoup d'allusions aussi au sport, au combat, hein, dans sa littérature. Mm-hmm. Donc.
L'esprit de compétition, hein. Pas le tout coup d'écrase tout le monde, mais l'esprit de compétition.
Oui, je pense qu'il y avait...
Ouais, quelque chose de bien là-dedans.
Si c'est pas écraser les autres, oui, je pense que... Enfin, il n'y a rien de mal, en tout cas.
Ouais. Faut pas se dépasser, en fait. Peut-être,
voilà, si c'est dans le respect des autres, de la règle, sans en faire un motif d'égotisme et de... Enfin, je ne crois pas qu'il y ait de contradiction.
Ouais. Et Régis, c'est vrai que les sportifs du dimanche qui nous écoutent, à part de lire vos articles et d'être fascinés par des beaux matchs et des prouesses sportives, ça apporte de la combativité, vous pensez, ou pas?
Ah oui,
pour lesquels?
Oui, oui, oui. Déjà, c'est physiologique. Faire du sport.
Les hormones.
Voilà, on sécrète des hormones, on va mieux. Enfin, on va mieux. Normalement, on va mieux.
Mmh. Vous êtes sportif ou pas vous-même?
Oui, de moins en
moins.
Heureusement,
quand même, un peu. De moins en moins. Le cordonnier mal chaussé. Hein,
mais je l'ai toujours été. J'ai toujours été sportif. Oui, oui. Ouais. Je continue. Et puis maintenant, mes enfants sont sportifs. Donc, me poussent à rester sportif. Pour voir leur dossard de loin, si possible. Donc, je pense, oui, que, que de faire du sport, ça rend combatif. Et je pense aussi que l'esprit de compétition, je ne sais pas si c'est évangélique, mais en tout cas, je pense que c'est sain, dans la mesure où faire de la compétition, c'est aussi se confronter à des gens qui sont meilleurs que soi, tout bêtement. Et ça vaut dans tous les domaines. Sinon, moi, personnellement, si je n'avais pas voulu être confronté à meilleur que moi, je ne serais pas allé à l'équipe. Hein, je serais resté dans un petit journal tranquille où j'aurais peut-être été le meilleur. Là, je suis à l'équipe, je ne suis pas le meilleur. C'est pas grave, je suis confronté à des gens meilleurs que moi qui sans doute font que je suis aussi un peu meilleur qu'avant.
Ouais.
Et dans le bel sport,
esprit,
c'est la même chose.
Bel esprit.
Non, c'est la stricte réalité. Se faire du sport, c'est aussi se jauger, voir que il y en a un qui saute plus haut que soi, un qui court plus vite, mais peut-être moins longtemps. Moi, personnellement, je courais longtemps.
Ce que vous
je courais
dites,
lentement, mais longtemps.
La compétition, c'est d'abord une compétition contre soi-même.
Mm-hmm.
C'est pour ça d'ailleurs que quand les gens sont surpris. Des moments, parfois, ils disent qu'ils sont fair-play, les sportifs, entre eux, parce qu'ils ont été battus, mais finalement... Parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, c'est d'abord leur défaite personnelle. C'est pas... ils sont tout de suite dans l'analyse instantanée de « j'ai pas fait ça, j'aurais dû faire ça, etc. » Donc, bien sûr, l'autre, il m'a battu, il est meilleur, mais d'abord, c'est moi. Il y a plein de sports où vous battez contre vous-même. Au golf, vous jouez contre vous-même, d'abord. Parce que c'est voilà, et quand on perd en finale de Roland-Garros, la première chose qu'on a en tête, c'est de se dire « qu'est-ce que j'ai loupé ?» qui fait que j'aurais dû le battre.
Ouais.
C'est pas de dire... bien sûr, après, on peut dire l'autre était meilleur, mais c'est d'abord un combat contre soi-même. Je peux vous dire que Djokovic, il se parle d'abord à lui-même avant de se parler, à savoir si l'autre a été plus vite. Il s'en veut à lui-même, il hurle, il crie, machin, parce que d'abord, il voit bien ses failles. Donc, l'esprit de compétition, il faut bien comprendre qu'il commence par soi.
Ouais, ça, c'est intéressant. En fait on s'imagine parfois...
Parce qu'on est les meilleurs connaisseurs de soi-même, si vous voulez.
Ouais.
Ronaldo, il se connaît tellement, il sait tellement toutes ses capacités que quand il rate un truc, il sait que c'est d'abord lui le problème. Alors après, il peut être de mauvaise foi, il peut dire l'arbitre, machin, etc. Parce que ça, c'est dur. C'est dur d'encaisser la défaite.
Ouais.
Mais un gars comme ça, il a une connaissance intime de tout ce qu'il peut faire ou tout ce qu'il a raté.
Ça, c'est très intéressant. Ça nous rapproche de la connaissance de soi, au fond, la combativité, puisqu'on s'éprouve, au fond. Donc, c'est intéressant ce que vous venez de dire, François, parce que je trouve que ça nous rapproche de la notion de limite, un petit peu.
C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, il y a 3-4 ans, j'avais vu, juste avant publier un bouquin, justement, sur l'école, et j'avais fait un gros chapitre sur le sport, j'avais vu un reportage fascinant, dont j'ai oublié le nom, bien sûr, mais qui parlait... de quelques grands champions, donc Michael Jordan, Pelé, Connors, McEnroe, et qui posait la question que je trouve fascinante, c'est qu'est-ce qui les distingue des autres ? C'est-à-dire, je veux dire, une équipe de basket qui va aux Jeux Olympiques, ils sont tous extraordinaires. Mais pourquoi il y a un Michael Jordan qui est vraiment unanimement meilleur que les autres ? Qu'est-ce qui les distingue ? Et en fait, c'est souvent... pas grand-chose, mais probablement un peu une meilleure connaissance de soi. Et dans le reportage que j'avais vu, il parlait beaucoup de... Alors moi, à chaque fois, je les confonds, mais c'est lequel qui râlait tout le temps ? C'est Connors ou McEnroe qui...
McEnroe.
Ouais, McEnroe. Bon.
Et moi, je me souviens, quand j'étais gosse, je regardais les matchs de McEnroe.
Ouais.
Ça nous faisait rigoler.
Ça nous faisait rire quand même.
Rigoler ou parfois pleurer, mais bon. Et en fait, lui, ce qu'il disait, ce que j'ai trouvé vraiment hyper intéressant, c'est qu'il disait, moi, là... Je vais contre l'arbitre parce qu'il a vu cette balle faute et que je sais qu'elle est bonne. Donc ça peut passer pour, comme vous disiez, de l'égotisme ou voilà. Mais moi, c'est pas une balle. Moi, c'est ma vie que je joue sur le terrain. Et en fait, grâce à ces gars-là, les règles changent. C'est-à-dire, c'est grâce à ça qu'il y a des arbitres, qu'il y a maintenant la caméra, la VAR, là. Ils font changer quand même un peu les règles. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ça que je trouve fascinant dans le sport, c'est que soit ce sont les sportifs, les athlètes et les sportives, sont des modèles pour les jeunes générations, et tant mieux, alléluia. Je suis certaine que là, avec les JO, il va y avoir plein de gamins.
C'est le bon côté des choses, ça.
C'est l'excellent côté des choses.
Tant vous dire que les Parisiens sont en ébullition, là, quand même, vous êtes au courant.
Oui,
de l'autre côté de ces murs-là,
oui, oui, oui.
C'est des choses, quand même.
Bon. Je suis au courant, mais c'est une fois tous les 100 ans, et que
allez,
ça va être extraordinaire. Quand
le
même.
QR code, pff, ça passe pas.
Oui, ça peut passer. Mais sinon, ils regarderont les jeux à la télé, comme nous. Mais je suis certaine, enfin j'espère, mais je suis certaine, qu'on va découvrir des athlètes et qu'on va se passionner pour eux et pour leur sport. Et que, début septembre, il va y avoir plein de petits et de moins petits qui vont s'inscrire à des sports moins connus ou en tout cas pour lesquels ils auront découvert un athlète extraordinaire.
Eh bien, voilà un autre champion, Oz. Bon, c'est pas lui, c'est Yannick Noah, bien évidemment, que nous retrouvons tout de suite. On se retrouve après. À tout de suite.
En quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
Presque rien, juste un pas, et venir plus près. D'autres liens, d'autres voies, au moins essayer. L'étincelle qu'on reçoit d'un premier regard. L'étincelle vient de toi, s'envole au hasard et peut tout changer.
Dépassé, ose Yannick Noah, à l'heure où nous parlons de sport, à quelques poignées de semaines de l'ouverture de ces Jeux Olympiques 2024, et si le sport nous rendait tout simplement plus combatifs, on espère que eh bien, des enfants vont s'inscriront à tous les sports qu'ils découvriront à travers tous ces Jeux Olympiques. Voilà, même ce seraient des disciplines qu'on connaît très très peu. Notamment, l'athlétisme, souvent, on voit un peu toujours la même chose, mais il y a des disciplines. Non, l'athlétisme, peut-être pas. Peut-être quelles sont les disciplines un peu oubliées? Ah oui, le saut à la
perche, le saut en longueur, qui est moins populaire.
On ne les voit pas forcément à la télévision. On les voit pas, sauf sur les chaînes, évidemment, le sport. Mais
oui, bah, c'est-à-dire c'est que c'est moins populaire que tennis. C'est quand même un peu loin, mais. Ouais, mais c'est ça qui est bien, justement, avec les Jeux Olympiques, c'est qu'on va redécouvrir des disciplines qui sont moins, enfin qu'on diffuse moins à la télé, voilà, parce qu'il y aura moins de sport co, enfin il n'y aura pas que les sport co.
Ouais. Mais vous disiez qu'on était effectivement, je vous demandais un peu les sports dans lesquels on allait performer, comme on dit maintenant. Mmh. Régis, les chances de médailles, c'est donc les sports co, vous l'avez dit, sports collectifs.
Oui, globalement, les sports collectifs, on a quand même maintenant une densité assez, d'ailleurs, assez impressionnante, on n'en parle pas assez en France. Tout est un peu focalisé sur le foot, qui lui-même a déjà des résultats assez impressionnants, hein, depuis 25 ans, depuis 98. Mais le handball, dans le basket, qui est quand même un sport très, très concurrentiel, aujourd'hui, on fait partie des équipes qui peuvent espérer une médaille. C'est déjà énorme. Le volley également, avec Erwin Engapet, qui est quand même un joueur majeur de son sport. Donc, globalement, tous les sports collectifs.
C'est-à-dire que les coachs sont bons dans ces sports-là aussi, hein, on imagine.
Je pense qu'on parlait de la culture française, mise par rapport au sport, et je pense que quand même on est plus tourné historiquement vers les sports collectifs.
Ah ouais.
Moi le premier, d'ailleurs, j'avoue que je trouve que dans les sports collectifs, forcément, quand on parle de valeurs, de combativité, d'entraide, on peut être moins bon, c'est le seul sport où on peut être un peu moins bon que les autres et quand même avoir une utilité dans son équipe. C'est quand même important les sports collectifs. Donc je pense qu'en France, oui, on est beaucoup tourné quand même autour historiquement des sports collectifs, plus que des... Peut-être parce que du coup, c'est l'équipe la championne, même si l'équipe de l'Euro 84, on se souvient de Platini, 98, on se souvient de Zidane, par exemple. Ça, c'est typique. 98, on se souvient de Zidane, qui en fait a une importance qui est loin d'être majeure dans cette conquête. Alors en finale, effectivement, il est exceptionnel, il met 2 buts. Mais le reste de cette Coupe du Monde, c'est rien du tout, en fait, Zidane. Il y a son exclusion, il revient sans être spécialement bon. Mais pour les Français, aujourd'hui, c'est Zidane. Ouais. Alors qu'en fait, sa grande compétition à Zidane, c'est l'Euro 2000 et sans doute la Coupe du Monde 2006 que la France ne gagne pas.
Mais, c'est la révélation, peut-être.
Et puis, aujourd'hui, il faut incarner. Il faut une personne qui incarne une équipe, qui incarne le sport. Et autant à l'Euro 84, c'était normal que Michel Platini incarne cette équipe. C'était vraiment, à tous les points de vue, c'était le maître du football français et... plus personne n'a autant dominé une compétition, certainement depuis autant que Michel Platini en 84, si ce n'est Diego Maradona 2 ans plus tard à la Coupe du Monde 86. Mais dominer autant son sujet sur 3 à 4 semaines, c'est prodigieux et c'est très rare. Et c'est vrai que Platini, là-dessus, ça reste une référence absolue.
Alors c'est intéressant parce que vous voyez, quand on analyse la notion de combativité, on sent qu'il y a plein de micro-vertus lié à cette combativité, parce que finalement, vous voyez, ce qu'on ne voit pas, c'est l'infra-force, quoi. Parce qu'il y a l'infra-verbal, l'infra-force, les infra-raisons qui ont fait qu'il y a eu cette victoire, même si vous disiez qu'effectivement, Zidane n'a peut-être pas joué un rôle majeur. Mais en fait, il y a plein de petites choses. Alors j'aimerais qu'on les égrène ensemble, à la lumière peut-être aussi de ce que vous avez recueilli comme témoignage l'un et l'autre, les uns les autres d'ailleurs, parce que François aussi en connaît un rayon. Mais vous voyez, par exemple, je sais pas, le fait effectivement de dépasser la douleur, de se dépasser, d'apprendre à dépasser ses peurs aussi, la peur de perdre, la peur de l'échec.
Tout à fait. Et surtout,
la mauvaise humeur du jour, j'en sais rien, plein de petites choses.
Et surtout, je pense que nos championnes, mais les grands champions en général, ont en eux le fait de ne jamais abandonner. Jamais.
Ça, si c'est pas de la combativité.
Hein. Donc, je pense que oui, à part vraiment... je me souviens, l'année dernière, j'ai vu une course de VTT avec la Française, là, qui est formidable.
Laurent Prévost ?
Ouais. Est-ce que c'est elle ? Je me souviens plus. Bon, bref, je me souviens plus. Enfin, c'était en Haute-Savoie.
Ouais.
Il faisait un temps de chien... vraiment, elles voyaient rien, elles essuyaient leurs lunettes sous le casque. Enfin, c'était vraiment horrible. Elles se font dépasser tout ça. Enfin, le VTT, dans la forêt et tout. Elle crève. Enfin, elle remet son vélo et tout. Qu'elle n'est pas blessée, très gravement blessée, ou que son vélo est défaillant. Sinon, tu remontes, t'y vas, et en plus, elle a gagné. Donc, oui, je pense que c'est ça.
Ça
le
apporte,
sport,
ça.
Le sport, quand on est coaché, entraîné, ou même le sportif du dimanche. Enfin.
Ouais, quand on sort tous les dimanches.
Voilà, on n'abandonne pas. Moi, je connais des gens qui... Enfin, c'est ce que je vous disais en début d'émission. Quand on fait partie d'une équipe ou qu'on a décidé soi-même de faire un sport
individuel... Vous allez à la piscine toutes les semaines, n'empêche.
Et d'ailleurs, les sports qui ne sont pas collectifs, notamment, merci pour la natation. Moi, j'ai 3 de mes enfants, qui sont des garçons, ont fait de la natation à très haut niveau.
D'accord.
Ils sont entraînés comme dans une équipe. C'est un sport individuel, mais au club, c'est une équipe. Vous voyez ce que je veux dire ? Au final, c'est un tel ou un tel qui va gagner la course, puisque c'est un sport...
ils sont coachés par
le même entraîneur, et surtout, ils sont considérés comme une équipe. C'est-à-dire, si on fait un déplacement quelque part, on emmène l'équipe, ils sont entraînés comme une équipe, et ce que veut le coach, c'est qu'un de ses poussins gagne. Mais le plus possible.
Ouais.
Mais, ça m'avait beaucoup intéressé, d'ailleurs, en suivant mes enfants, de voir à quel point ils sont solidaires ou effectivement, ils veulent essayer de dépasser le copain ou la copine. Mais d'ailleurs, la natation est un sport dans lequel on s'entraîne, c'est mixte. Ça, c'est aussi très intéressant. Donc les sports comment on dit un sport qui n'est pas un sport co, les sports individuels.
Individuel.
Voilà, les sports individuels ne sont pas moins collectifs. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf évidemment sur le terrain ou
une fois qu'ils sont dans
l'esprit de je m'entraîne, qui est quand même 90% du temps. Hein, je m'entraîne, je performe, j'essaye d'être meilleur. C'est aussi encadré comme une équipe.
Oui, et puis dépasser ses frustrations, c'est vrai qu'on pense aussi à tous nos vices de l'homme moderne qui veut sa réponse tout de suite, qui a pas envie d'y aller, alors il y va pas, etc. Avant, vous voyez ce que je veux dire.
Je vois très bien.
Mais c'est vrai que le sport est magique pour les... Il faut s'efforcer, c'est bête, hein, je veux dire un truc pour les sportifs du dimanche, François Moignard, dont vous parliez tout à l'heure. Bah, aller à la piscine toutes les semaines, même une fois par semaine, qu'il pleuve et qu'il neige... C'est pas très... Voilà, là, donc maintenant, c'est pas si simple, en fait, mais ça apporte. On est content quand on sort. On l'a
donc
fait,
c'est
quoi.
Un exercice de volonté.
Et voilà.
Et donc, c'est pour ça que on est bien sûr très triste qu'en France, le sport n'ait pas la place qu'il devrait avoir dans l'éducation. Quand on était ensemble à l'équipe, et j'y suis encore, on s'amusait de, à chaque remaniement ministériel, de voir quelle serait la position avant-dernière ou dernière du ministre des Sports. Alors, ça peut monter à cause des JO, mais dès que les JO seront passés, ça va passer en 25e position. Pardon, je suis cynique, mais voilà, et ça démontre le fait que dans notre système d'éducation, on met le sport aux oubliettes, contrairement à tous les pays anglo-saxons du Nord, l'Allemagne, les pays nordiques, l'Angleterre, les États-Unis, où construire âme et corps, ça fait partie du projet, y compris avec une vision évangélique ou spirituelle de la personne humaine. Et donc, et en France, on est un pays d'intellectuels, et donc les élites considèrent que le sport est la cinquième roue du carrosse. Bon, alors ça change, et effectivement... Et l'équipe l'a beaucoup souligné depuis des années en disant que les Jeux Olympiques étaient sans doute la dernière chance qu'on avait de créer un déclic donc de la pratique quotidienne du sport et des enfants. Donc on espère que, effectivement, post-JO, il y aura beaucoup d'inscriptions dans les écoles de sport et qu'on en donnera une dimension nouvelle parce que c'est vraiment indispensable. Donc voilà, quand vous revenez à ça, cet effort, cette volonté, ça vous donne un bagage pour la vie qui est formidable.
C'est mieux que de se mettre tous les dimanches devant
Et les mathématiques, c'est très bien, mais c'est un bagage aussi en termes de personnes, de personnalité qui est très important.
À l'école en France, plus les enfants grandissent, moins ils font du sport.
En France,
sixième, cinquième, ils ont 4 heures de sport par semaine, 2 fois 2 heures, et à partir de la quatrième, je ne sais pas quel esprit...
Ah oui, le sport scolaire, vous voulez dire, le sport en dehors.
Non, je parle à l'école, mais enfin, c'est quand même l'école qui est là pour ça aussi, quoi.
Qui est censée donner envie aussi.
Voilà, et les structures, et d'accompagner les enfants. Et donc, 6e, 5e, 2 fois 2 heures, à partir de la 4e, on enlève une heure. Puis au lycée, je ne vous en parle pas. Donc évidemment...
C'est vrai que c'est lunaire.
Oui, c'est extra... C'est fou. C'est fou. Alors qu'on veut, alors que tout dans les plus hautes sphères politiques...
À la limite, si le sport était gratuit en dehors, à la limite...
Oui, il n'est pas très cher,
Une compensation en dehors,
C'est aussi parce qu'on parlait tout à l'heure des ministres.
Ouais.
Finalement, en France, on va juger les ministres, par exemple, sur le nombre de médailles olympiques. Alors là, en plus, le ministre, je ne vois pas ce qu'il aura apporté dans le pot, il sera là depuis 2 semaines. On va le juger sur le nombre de médailles olympiques, ou le président de la Fédération française de foot, on va le juger sur est-ce que la France a été championne du monde ou championne d'Europe ou pas. Alors que non, ils sont là pour qu'il y ait le plus d'enfants possible qui pratiquent leur sport, qu'ils pratiquent dans de bonnes conditions, dans des bons gymnases, dans des vestiaires bien prévus, par exemple. On parle de sport féminin dans ce livre. Aujourd'hui, dans les stades de football en général, rien n'est adapté à la pratique du football mixte. Par exemple, souvent, les vestiaires sont divisés, évidemment. Moi, dans mon club, par exemple, il y a 4 vestiaires. Et au milieu de 2 des vestiaires, il y a la douche. Parce qu'évidemment, ça a été prévu, c'est des garçons, que les deux équipes soient sous la douche, sous la même douche, c'est pas un problème. Et là, en fait, structurellement, c'est un petit problème, mais structurellement, c'est pas prévu pour que les filles et les garçons s'entraînent en même temps sur le même stade. Donc, c'est ça le boulot d'un ministre, c'est ça le boulot des... C'est que tous les enfants aient envie de faire du sport et ne se disent pas, mince, je suis une fille, où est-ce que je vais me changer? Est-ce qu'il va falloir que je demande à l'entraîneur de fermer à clé la porte pour que je puisse me changer? Et ainsi de suite. Et oui, moi j'ai vécu ça en tant qu'entraîneur de football, j'ai aussi entraîné des enfants, et même s'ils n'ont que 10 ans, les filles, elles ont le droit de se changer dans un autre vestiaire que les garçons.
Ouais, c'est vrai que c'est pas simple de donner envie, à part peut-être la télé, les JO, les grands événements sportifs. Et puis souvent, les parents, peut-être que ça coûte trop cher, ou alors ils ne se renseignent pas. Mais vous disiez que ça coûte pas cher. Qu'est-ce qui coûte pas cher
Tous les sport-co, une licence en sport-co, c'est rien. Je veux dire.
C'est sûr que l'équitation coûte une blinde.
Oui, mais ça, c'est parce qu'il y a l'animal.
Voilà.
C'est l'animal qui coûte.
Mais disons qu'on peut, faire du sport pour un prix raisonnable en France, mais effectivement, c'est pas encore assez démocratisé.
Voilà, en fait, c'est ça. C'est, j'ai l'impression que c'est ça.
Effectivement, parce que 100 euros, pour certaines personnes, c'est rien.
C'est beaucoup,
pour d'autres personnes, c'est beaucoup. Moi, je connais plein de personnes qui m'ont dit, quand j'étais jeune, je pouvais pas faire du sport parce que c'était trop cher pour mes parents.
Oui, tout simplement.
Plus les trajets, quand il y a des compètes. Voilà, il n'y a pas un bus. Enfin, c'est rare quand même les clubs qui disent... J'ai réservé un bus et j'emmène les équipes. Non, c'est les parents. Enfin, moi, mes enfants aussi ont fait du foot. Ben, fallait les emmener.
C'est vrai que c'est un boulot par plein temps. Mais enfin, c'est quand même du travail
tous les week-ends. Tous les week-ends, voilà.
Mais ça en vaut certainement la peine, on imagine.
Bien sûr.
Est-ce qu'il y a encore des repérages dans les... Parce que je sais que dans le pays, ça se fait. Est-ce que dans les écoles...
Ah, dans les écoles.
Ah, vous voyez, en France, je sais que ça se fait dans les autres pays, mais en France, est-ce que ça se fait? Là aussi, là où le bas blesse, c'est toute la chaîne est...
Oui, un peu, au collège, d'abord, il y a quand même la filière qui ne s'appelle plus sport-études, mais qui s'appelle...
C'est plus sport-études, hein,
non, ça s'appelle plus sport-études, ça s'appelle, je ne sais plus comment.
C'est l'équivalent.
Si, moi, je vois, personnellement, je vois dans le collège de mes filles, il y a eu les interclasses la semaine dernière, il y a les profs de sport qui sont venus voir des élèves en disant « tu devrais t'inscrire l'année prochaine à la section rugby, tu devrais, dis donc, t'es super doué pour le basket, tu devrais... »
Ça, c'est mieux,
ça,
alors.
Ça, c'est bien, c'est formidable. Mm. Mais néanmoins, tu devrais faire du sport. Oui, mais je finis à 17h, ça veut dire que... voilà, c'est ce que disait Régis en début d'émission.
C'est incompatible, en fait.
C'est-à-dire que
aussi,
les Anglais, quand ils ont organisé les JO, je veux dire, ils étaient prêts structurellement, eux. Ça fait 25 ans que, je veux dire, ils arrêtent les cours à 13h, 14h.
Ouais.
Nous, quand un gamin dit, au fait, enfin, quand un parent fait un mot dans le carnet en disant mon enfant ne sera pas là vendredi après-midi parce qu'il part à une compète, ben oui, mais quand même, l'école, c'est prioritaire.
Mmh. On est vraiment pas câblés d'une année. C'est drôle, hein, une question de câblage.
Là encore, c'est un problème de structure. Moi, j'ai un enfant qui a fait une section sport-études et ça voulait dire internat. Obligatoire. Mmh. Et l'internat. Bon, voilà, je veux pas... Mais c'était pas terrible. Mmh. Et donc, au bout d'un an, il a arrêté.
Ah, ouais.
Alors, je dis pas qu'il aurait été sportif de haut niveau, mais je trouve qu'on donne pas toutes les chances. Donne pas toutes les chances. Et c'est à ça que devrait être jugé un ministre. Et là, c'est au-delà du sport. C'est l'éducation nationale. C'est plein de choses qui entrent en jeu.
C'est des vrais
choix de société.
En fait, on pourrait vendre comme une école de vie, en fait. Comme
bien
vous l'avez dit au départ, quoi.
Bien
le
sûr.
Sport est juste une école de vie, quoi. Sans aller au championnat du monde, c'est une école de vie... d'aller régulièrement. Et puis, on y fait des rencontres aussi, on en a pas parlé,
sûr.
Mais c'est vrai qu'il y a... vous l'avez dit, l'esprit de compétition par rapport aux autres, même quand on fait un sport individuel, parfois, il y a une émulation.
L'esprit club.
On parle de l'isolement des jeunes.
Les rencontres, parce que moi, ce que j'aime dans le
et
sport, c'est que justement, on fréquente des gens qui ne sont pas forcément du quartier ou de l'école.
Et oui.
On sort du petit réseau,
soi.
Voilà. On sort de ce réseau-là et on fait des rencontres souvent formidables. Enfin, je veux dire, en général, les gens qu'on a connus via le sport, c'est... petite valeur à part. Et donc voilà, le sport a énormément de vertus. Faudrait-il l'intégrer dans nos sociétés
C'est le dernier endroit où tous les gens se rencontrent. On parlait de Pythagore tout à l'heure. L'agora, finalement, c'est les stades de foot.
Mais pas que.
Non, mais je parle du football, parce que le football, c'est quand même le sport majeur.
Bien sûr.
Mais voilà, l'endroit où tout le monde se rencontre, toutes les cultures, toutes les religions
tout
se rencontrent aujourd'hui,
pour
c'est le terrain de
communautés.
Sport.
En tout cas, 50 championnes, c'est votre livre. Hein. Florence Sarto, elle est devant moi, là, ma chouchou, moi, à moi, je ne l'ai même pas dit. Michel Mouton, Christine Caron, dont on parlait tout à l'heure, Billie Jean King, Wilma Rudolph, etc. À découvrir, évidemment, dans cet ouvrage Championne aux éditions Erol, Régis Dupont, Valérie de Sautune, merci, vous en êtes les auteurs. Et François Morinière, merci encore.
Merci beaucoup.
D'être venu jusqu'ici. Vous qui avez fondé Holy Games, ancien directeur du journal L'Équipe. Merci les amis.
Merci beaucoup.
Merci.